Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Je pense que c'est avec 8 ans d'expérience sur une première entreprise, et ça c'est vraiment un message important, c'est pas parce qu'on a fait il y a 10 ans une école de design que à terme on peut pas lancer une entreprise, tout le monde peut être entrepreneur.
Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Bonjour, je suis Guillaume Brejeras et ce matin, j'aurais pu vous emmener près de l'océan ou tout en haut d'une montagne. Celui qui me reçoit chez lui nourrit une passion ardente pour les sports de glisse. Mais son activité principale n'est pas de dévaler les pentes ou de courir le monde pour dénicher les meilleurs spots de kitesurf. François Morier est le cofondateur, avec Mathilde Lacombe, de M. Une marque dont le principe se résume dans son slogan « La beauté vient de l'intérieur ».
M, c'est une toute nouvelle marque de soins avec une approche très holistique et nos premiers produits, ce sont des compléments alimentaires dédiés à la peau.
Durant cette conversation qui s'est déroulée à Paris, à deux pas de la Silicon Sentier, il me parle de son duo avec Mathilde, de l'ascension fulgurante de M depuis 6 mois, mais aussi des leçons qu'il a tirées de leur précédente aventure. Ensemble, ils avaient créé Jolie Box, revendu à Birchbox, cochant toutes les cases du parcours parfait. Cette fois, c'est animé d'une farouche volonté d'indépendance que ce créatif veut mener sa barque. Bienvenue chez François. François, merci de me recevoir chez toi, donc à Paris. Et je suis d'autant plus ravi que, effectivement, c'est compliqué d'apprendre des choses sur toi, puisque tu parles ou tu as très peu parlé durant ton aventure entrepreneuriale.
Sur Internet, oui, en tout cas.
Sur Internet. Et un peu plus en cercle restreint, d'après ce qu'on m'a dit, mais on va aborder tout ça. La première question que je pose à chaque fois aux personnes qui me reçoivent, c'est quelle est la routine matinale ?
Eh bien, alors tout d'abord, je suis ravi de te recevoir aussi chez moi. Et ma routine matinale, elle a beaucoup changé justement. C'est une bonne question pour commencer sur le sujet un peu entrepreneurial. Elle a beaucoup changé ces derniers temps, puisque par rapport à chez Birchbox, c'est un rythme tout à fait différent, et, où je travaille souvent de chez moi. Et il faut qu'on trouve une organisation justement, enfin différente avec Mathilde et entre nous. Et j'avais une certaine appréhension au début par rapport à ça, de me retrouver entre guillemets seul et de devoir faire mon propre programme, où je sais que je peux avoir tendance un peu à procrastiner ou me lever un peu tard. Et j'avais pas du tout envie de ça. Et donc ma routine matinale, en tout cas, a beaucoup changé dans ce sens-là, et justement plutôt dans le bon sens, puisque je suis presque devenu matinal. Même quand on travaille pas ensemble ou que je suis à l'extérieur de chez moi, je me réveille assez tôt. Et aujourd'hui même, spontanément, je vais me réveiller sans réveil vers 7h15, aller au sport, faire une bonne séance, revenir en pleine forme et faire une super journée après. Ça m'était jamais arrivé avant, et je pense que c'est le fruit des efforts que j'ai fait pour avoir une routine différente, beaucoup plus justement autonome et drivée par la motivation de se lever, de passer une bonne journée, plus que par le cadre établi de devoir aller au boulot à telle heure parce que tout le monde va au boulot à telle heure.
Ça te manque pas, ça ?
Et ça me manque pas du tout. J'avais peur. En fait, c'était ambigu. J'avais envie de changer ce rythme un peu trop établi, plan-plan, et où on n'avait plus trop l'excitation justement entrepreneuriale. Et en même temps, je savais que ça m'avait donné un cadre et un confort qui était bien parce que le lundi tu vas bosser, tu sors, tu as un rythme entre guillemets normal, de vie normale, Et dans lequel en fait je me plaisais aussi. C'était donc.
Et c'est pas bon pour la créativité, ce rythme trop normal justement.
C'est pas bon pour la créativité. Je dirais pas forcément ça comme ça, parce que la créativité, je pense que c'est très complexe et ça se stimule de plein de façons différentes. En tout cas, c'est pas ça qui avait terni ma créativité. Mais en tout cas, non, c'est quand je considère que c'est des mauvaises raisons que de juste suivre un cadre ou des règles, ou un peu ce qu'on appelle présentionnisme, ou être là, se montrer à telle heure parce que ceci, cela. Si derrière on n'a pas, ou plus ou moins, l'intérêt du boulot, de ce qu'on fait, du projet, de se lever le matin, voilà, pour moi, c'est la clé, c'est le principal. C'est ça qui, derrière, stimule la créativité, la motivation et tout ce qui va avec.
Et donc, tu parles de créativité, c'est essentiel parce que la plupart des start-upers que je rencontre ne sont pas issus de cette filière-là. Toi, t'as vraiment, c'est vraiment ta filière, c'est ton ADN, c'est ce que tu as apporté à Jollybox, Birchbox et maintenant M. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce parcours un petit peu?
Oui, alors je vais essayer de pas trop m'étaler, mais voilà, en résumé. Non, mais j'ai en effet vraiment un profil créatif. Je pense que de toute façon, ça a toujours été notre force dans nos projets entrepreneuriaux avec mes amis et associés avec qui on a tout fait. C'était notre complémentarité. Je pense que on était encore très jeune à l'époque, on avait 18 ans, 19, c'était en 2005, 2006. On a tout de suite compris une chose, deux choses, c'est que Internet était en train d'exploser, c'était vraiment la bulle Internet, le rachat de YouTube par Google, voilà, en 2006, etc. On se dit, waouh, c'est incroyable Internet. Et on comprend qu'entre nous, on a des compétences très différentes et très complémentaires qui vont nous permettre de faire des choses ensemble sur Internet par nous-mêmes avec très peu de moyens. C'est comme ça que tout a commencé. Et moi, notamment, justement, avec un profil créatif, j'ai fait une école de design industriel, mais vraiment pluridisciplinaire, ce qu'on appelle un peu comme design 360, design global. Et chacun se faisait un peu son parcours. Hein. C'était à Paris, à l'ENSI, l'ENSCI, les ateliers, qui fait partie des Beaux-Arts et des Arts Déco. Donc, c'est vraiment une école d'art, focus sur la création justement et la créativité, et plus qu'une école entre guillemets normale avec des cours, des profs, etc., c'est une école qui focus beaucoup sur l'autonomie. Donc c'était déjà une bonne école dans ce sens là et très centrée sur la démarche, justement la réflexion et la démarche créative plus que les outils. Mais c'est là où ça n'a pas été évident pour moi, parce que moi j'y suis rentré post-bac, alors qu'en général c'était une école à l'origine post-diplôme, avec beaucoup de postes prépa qui y rentraient, qui avaient une base d'outils que moi j'avais pas du tout. Et ça a été pas évident justement pour déjà comprendre bien le système de l'école, rattraper cette base d'outils et pouvoir profiter pleinement de l'école et du cadre. Donc ça m'a servi, c'était une super formation. Aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux regretter, je ne regrette pas du tout, mais s'il y avait quelques points de regret, c'est avec une année ou deux de prépa avant, comme en fait le font beaucoup, sur les outils, j'aurais mieux profité de l'école et de tous les outils du cadre qu'elle donnait. Maintenant, j'ai aucun regret parce qu'au final, elle m'a aussi permis, avec, je me souviens, les ateliers de design numérique, etc., de rapidement avoir et compléter l'attrait qu'on avait sur Internet. Je me suis vite orienté justement là-dessus. Peut-être qu'au final, ça m'a servi parce que justement, comme j'avais moins la base des outils, de la forme, de l'objet qui était complexe à appréhender, le numérique, j'ai trouvé plus de facilité, en tout cas pour moi, ça. Et donc, je me suis orienté plus là-dedans. Donc, au final, c'est peut-être même en fait un signe et ça m'a servi.
Aujourd'hui, donc, toi et Mathilde, vous avez lancé M. Vous avez deux profils atypiques, puisque la plupart du temps, c'est, encore une fois, je rencontre plutôt des gens issus des filières de grandes écoles de business, plutôt. Et Mathilde, c'est pareil. Elle a un parcours qui est plutôt sur la communication, le marketing, etc. Toi, sur la création. Comment vous faites à deux pour lancer une marque aujourd'hui, M, dans les... Voilà, bon. Comment vous complétez, comment vous montez un business plan, comment vous faites? C'est quoi les secrets?
Bon, c'est une très bonne question et elle est vaste. Mais non, il n'y a pas de secret, mais c'est une question en effet super importante, et tellement importante qu'elle a été vraiment au cœur de nos réflexions toute l'année dernière et tout le temps de s'associer ensemble. On se connaît extrêmement bien avec Mathilde. on sait qu'on bosse super bien ensemble, on connaît chacun nos forces, nos faiblesses, etc. On a une complémentarité qui est très forte déjà sur nos métiers respectifs, bien qu'on soit en effet tous les deux d'univers créatif et ou littéraire. Mathilde, elle a fait Cagne, Hippocagne, littéraire, journalisme. Moi, j'ai fait une école d'art dans la création. On n'a pas des profils ingénieurs ou business, même si j'ai fait un bac S et j'hésitais à l'époque entre une formation plutôt ingénieur ou plutôt créatif design. Mais en tout cas, c'était vraiment au cœur de nos réflexions. Je reviens sur l'historique de nos études, etc., les premiers projets. On était en effet associés et dans notre premier projet Jolly Box, Birch Box, avec deux personnes issues de justement commerce management et une personne tech.
Bonjour, je suis Mathilde Lacombe, directrice éditoriale chez Birch Box. J'ai fondé Jolly Box il y a 5 ans avec 4 associés. En 2013, Jolly Box est devenu Birch Box après un rapide développement en France, en Angleterre, en Espagne. Quand on a créé la boîte, on avait une idée en tête, c'était de rendre l'achat beauté sur Internet plus simple et surtout plus efficace.
Ce qui fait qu'avec Mathilde, on s'est associés tous les deux et pourquoi en effet il n'y a pas de profil business finance, ça a été clairement, je pense que c'est avec 8 ans d'expérience sur une première entreprise. Et ça, c'est vraiment un message important. C'est pas parce qu'on a fait il y a 10 ans une école de design que à terme on peut pas lancer une entreprise. Tout le monde peut être entrepreneur. Et la meilleure des écoles, elle est sur le terrain. Monter une boîte, et comme on l'a fait avec Jolly Box, Birch Box, on a levé des fonds, on s'est développé en France, à l'étranger. Je me suis occupé, moi, pas que de la créa, même si à terme c'était vraiment ma fonction et mes missions, mais et notamment au début, et pendant au moins 2 ans je me suis occupé seul ou quasiment seul de toute la logistique, de certains autres aspects, tout comme Mathilde s'est occupée aussi d'autres aspects, et en étant confronté tous les jours aux problèmes des autres, en échangeant beaucoup entre nous, en sachant ce qui se passe, on comprend aussi quand même beaucoup de choses au fil de l'eau, et en fait il n'y a rien de très compliqué, donc justement il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère, on apprend, on comprend, et puis après ça nous permet aujourd'hui, je pense, sereinement de se lancer tous les deux sans se dire oh là là, mais comment on va faire pour, mais je te cache pas qu'on s'est beaucoup posé la question, même qu'on a envisagé, et à plusieurs reprises avec plusieurs personnes ou profils de personnes ou de groupes de personnes différentes, de s'associer pour compléter nos compétences. Et donc c'est un exercice qu'on a réellement fait, mais à chaque fois on s'est rapidement dit, c'est en même pas 15 jours, que en fait on n'avait pas forcément besoin de ces autres profils en interne pour lancer le truc, mais bien sûr on en a besoin dans le projet, mais aujourd'hui c'est plus sous forme externe. C'est un super avocat fiscaliste, on a un super comptable et qui fait même plus que de la compta pour nous, voilà.
Faut bien s'entourer,
ça reste la clé, et bien s'entourer c'est sous forme en effet d'association avec ses associés, mais c'est aussi, ça peut tout à fait être en externe.
Et donc les 6 premiers mois de M, qui est une trajectoire, on va en parler peut-être un peu plus en détail, assez incroyable, est-ce que tu as quand même appris des choses, est-ce que tu as découvert des choses que tu n'avais pas anticipées?
Les découvertes qu'on n'avait pas anticipées, je pense pas, honnêtement, sans vouloir être trop mégalo ou je connais tout, on n'a pas trop découvert de trucs qu'on connaissait pas du tout, parce que de nouveau avec toute l'expérience et tout le vécu qu'on a eu chez Birchbox, on avait quand même une certaine appréhension. C'était aussi quand même, je pense, qui a été l'élément déclencheur qui nous a dit bon allez go, c'est que on savait globalement comment ça allait se passer, et justement qu'on n'allait pas à un moment tomber des nues ou être mis au pied d'un mur infranchissable. Ceci dit, je pense qu'on, et Mathilde aussi, on s'est davantage révélé ou épanoui. C'est-à-dire que chez Birchbox, malgré tout, on avait toujours été chacun dans nos fonctions et missions respectives. Moi, j'étais directeur de la création, etc. Mathilde s'occupait des questions d'éditorial, de contenu, de marque. Et c'est aussi peut-être pour ça, comme tu le disais au début, qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature sur moi sur Internet. J'ai toujours été en retrait. Les interviews sur Birchbox, business et tout, c'était pas moi qui prenais la parole. Et dans le fond, enfin voilà, ça m'allait. Mais je pense qu'aussi, j'avais envie un peu de... pas de m'émanciper, mais je pense de chercher un épanouissement aussi différent, vraiment entrepreneurial à 100%, ce qui en fait, on était entrepreneur avec Jollybox et Birchbox, c'était clairement de l'entrepreneuriat bien sûr, mais où on s'est tout de suite un peu chacun casé. Et là, ce qu'on a aussi, je pense, cherché et ce qu'on apprécie énormément avec Mathilde, c'est cet épanouissement qui, pour nous aujourd'hui, est global. Il est complet. On est entrepreneur à 100% et on s'occupe aussi bien des questions techniques, juridiques, administratives, fiscales, le business plan, etc. Le business plan, et pour prendre cet exemple-là, parce que c'est toujours le truc qui fait business, si tu n'as pas fait HEC, tu ne vas pas savoir faire un business plan, etc. Certes, je ne suis pas un pro sur Excel, je sais faire des belles mises en forme et je suis plus à l'aise de le faire sur Illustrator, mais c'est moins pratique. Mais,
un business plan sur Illustrator.
Un business plan sur Illustrator, oui, on ne l'a pas fait pour autant. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte justement, notamment l'année dernière, quand on a commencé à travailler sur le projet et à se dire « il nous faut quelqu'un de, parce que sinon on ne va pas pouvoir faire ça », c'était notamment le business plan, qui n'est pas non plus pour nous, c'est un outil, mais c'est pas, tu vois, on bosse pas un an le business plan avant de se lancer, on fonctionne beaucoup à l'intuition, on pourra en reparler si tu veux, mais sur le business plan, en tout cas, on s'est dit, voilà, on va être bloqué parce que chez Birchbox, bah, on l'avait jamais fait, on sait pas quoi et tout. Et en fait, le business plan, un bon business plan, c'est une bonne trame, parce que c'est important, la logique du business plan, et qu'elle fonctionne bien, mais ça, c'est plus pour nous de la technique. Et en fait, ça, bah, on trouve très facilement quelqu'un qui nous aide ou qui nous partage une trame de business plan. Et en fait, on s'est rendu compte que l'essentiel, vraiment la clé, c'était le contenu du business plan. Et le contenu, on s'est rendu compte qu'en fait, Mathilde et moi, on l'avait en intégralité. Parce que les contenus, c'est les projections et les contenus, le contenu justement clé, c'est l'ambition, c'est combien vous pensez qu'on peut vendre de trucs. Bah, tout ça, sachant qu'on est parti avec un certain feeling par rapport à ça, Mathilde et sa communauté, on avait fait une page de teasing avec aussi ce qu'on avait vécu chez Jollybox, on savait combien on pouvait embarquer de monde le premier mois. Bon, toutes ces perspectives-là, en fait, c'est nous qui les avions en tête, et aussi tous les coûts qui sont très importants et qui vont vraiment donner la rentabilité, etc. Donc, ça s'appelle les COGS, les coûts de produits, packaging, logistique, le développement du produit en eux-mêmes, le flacon, etc. Et puis après, tous les frais qu'on imaginait à court et moyen terme, est-ce qu'on va recruter, pas recruter, etc. Tout ça, on l'avait, mais vraiment assez finement en tête. Et donc, en fait, le BP, on l'a fait comme ça. Il était... ça a vraiment été un bon outil, justement. Il était assez fiable et assez complet. Et aujourd'hui, on est en train de tout le remettre à plat parce que on est plutôt allé dans le bon sens du BP. On l'a même largement dépassé et très largement dépassé. Et donc aujourd'hui, on le remet un peu en perspective avec la réalité, avec le recul des 6 premiers mois, mais aussi avec la réalité aujourd'hui des coûts précis de chaque chose, des produits à venir, etc., pour qu'on y soit vraiment très fin et très complet.
Alors parlons-en justement un petit peu de M. Aujourd'hui, donc ça fait 6 mois d'existence, là on commence à voir, il y a eu des ruptures de stock, je crois, sur certains...
Sur un peu toutes les...
sur toutes les gammes. La promesse, c'est la beauté commence à l'intérieur. C'est
oui.
Ça. D'où ça vient ça? Ma question, c'est est-ce que vraiment c'est pour profiter entre guillemets de la tendance actuelle du bien-être et de tout ce qui va avec, ou est-ce qu'il y a vraiment des racines plus profondes qui justifient ce positionnement aujourd'hui?
Les deux, et je pense que c'est pour ça qu'on arrive au bon moment avec la bonne marque et les bons produits, et qu'on n'est pas et que c'est pas fake, c'est que justement on n'est pas que sur une tendance. Ah, il y a une tendance, alors on va faire ça, sans forcément comprendre le fond. C'est qu'il y a du fond et de la forme. La beauté vient de l'intérieur. C'est avant tout Mathilde qui a porté la vision, qui l'a installée telle qu'elle est aujourd'hui. Mais moi, je m'y retrouvais beaucoup. Et c'est pour ça que aussi ça a bien matché entre nous, sur notre association et sur le produit, sur la marque. C'est que on a beau se mettre plein de crème, traiter l'extérieur, etc., d'une beauté entre guillemets superficielle, le maquillage, c'est vraiment du maquillage, comme du camouflage. Et ce qu'on appelle le soin, ça reste, comme c'est écrit à chaque fois sur les flacons de crème et tout, hydratation superficielle des couches, de l'épiderme, etc. etc. Le vrai ce qu'on appelle la beauté intérieure. Non, mais tout ce qui se passe à l'intérieur en fait a des impacts beaucoup plus forts, très très forts sur la peau. C'est pas, quand on est stressé, on rougit, quand on n'est pas bien, quand on mange mal, quand on fait pas de sport, quand on est fatigué, on a des grosses cernes, on a le ah, t'as le teint terne, etc. Tout ça, en fait, c'est de l'intérieur et ça passe par plein de choses et c'est plus que justement de la beauté au sens cosmétique du terme. C'est un style de vie. Donc, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui, en effet, et là où c'est devenu, et c'est très bien, une tendance autour du wellness. Mais c'est bien manger, bien dormir, prendre soin de soi. Et on dit aussi très souvent que l'intestin est le second cerveau. Nous, c'est la base des produits. On a mis des probiotiques dans toutes nos formules et on est en train de changer notre, entre guillemets, pas promesse, mais petite baseline qu'on a sur les produits. On avait avant You Glow Girl. Mm-hmm. Donc, c'était assez sympa. C'était plutôt petite catchline féminine, etc. Et là, on met sur tous nos produits désormais Happy Gut, Happy Skin. Donc, c'est globalement, et ça résume très bien, si on est bien dans l'estomac, on a une belle peau.
Et du coup, ça s'adresse aux hommes aussi ?
C'est une bonne question, mais ça s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, plus spécifiquement aux femmes, puisque nos trois formules initiales, elles ont vraiment été pensées et formulées pour des problématiques plus féminines, et notamment très liées au cycle d'hormones, etc. Néanmoins, j'ai moi-même fait les cures, comme aussi on a des hommes qui sont abonnés. C'est globalement des vitamines et des plantes. Donc ça va faire de mal à personne, plutôt du bien. Mais voilà, dans l'axe des formulations, ça va plutôt aider sur des problématiques féminines que masculines. Mais ça peut que faire du bien à tout le monde. Ça, et en tout cas, notre vocation, oui, c'est de s'adresser à tout le monde. C'est pour ça que le You Glow Girl va devenir et devient le Happy Gut, Happy Skin. Mm-hmm. Et on a des perspectives autour de produits, en effet, spécifiquement masculins qui vont sortir très prochainement.
D'accord. Et donc, tu le disais, cette sensation ou ce besoin de bien-être prend racine bien plus loin que là, sur ces 6 derniers mois. Je crois que tu as grandi en Bretagne et oui. Que tu mangeais bio. On m'a dit que tu mangeais, enfin, chez toi, tout le monde mangeait bio. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces premiers...
Oui, alors c'est sûr que c'est dans la genèse, ou en tout cas là aujourd'hui je me retrouve pleinement dans le projet, j'y trouve un sens, comme Mathilde aussi trouve un sens par rapport à ses problématiques personnelles. Moi j'ai grandi en effet à la campagne, vraiment en pleine campagne en Bretagne, et on était 5 enfants. On avait la chance d'avoir une maman au foyer qui cuisinait pour nous, qui cuisinait super bien, qui a aussi qui avait ouvert des chambres, des tables d'hôtes. Donc vraiment la cuisine était pour elle une passion, et c'était, je pense aussi pour elle, une passion, et bah, plus qu'une passion, c'était vraiment très important qu'on soit bien nourri et qu'on mange des choses saines. Alors quand t'as 15 ans et que tu veux manger McDo, c'est un peu chiant tous les jours le bon gratin dauphinois. Mm-hmm. mais en fait avec le recul, et enfin c'était une chance extraordinaire, et on a en tout cas été baigné en fait en tout cas oui dans cette logique de d'éviter la malbouffe, mais dans le sens surtout en effet de l'origine des produits, plus que dans juste la nourriture, c'était le made in France que je me souviens, enfin mon père prenait depuis notre plus tendre enfance. Je me souviens de ses réflexes hein, sur les jouets et tout, de regarder dessous si c'était made in China ou made in France. Donc c'est venu, nous c'est depuis qu'on est tout petit, le made in France et l'origine des produits. Mm-hmm. Et d'autant plus dans la nourriture. Et alors nous c'était facile parce que justement on avait un grand jardin potager. J'avais aussi mon petit frère qui était passionné d'agriculture. Mmh. Il avait un jardin potager, mais qui était presque au sens professionnel du terme, hein, qu'il avait jusqu'à ses 18 ans. Mmh. Il faisait des espèces disparues, des tomates. C'est les meilleures tomates que j'ai jamais mangées. J'en ai plus mangé d'aussi bonnes depuis. Des cœurs de bœuf, des noirs de Crimée, des petites tomates cerises. Donc beaucoup de nos aliments, ça venait du potager. Ça, c'était super. Et puis après, sur des circuits courts, des marchés locaux, quand se sont développées toutes les AMAP et tout, mmh. Ça peut paraître ambigu à la campagne, mais ça marche super bien. Ouais. Et donc, mes parents ont rejoint aussi ces groupes-là. Et donc je sais qu'encore aujourd'hui, et pour les chambres d'hôtes, ils vont s'approvisionner en circuit court de porc bio à telle ferme, ou alors dans une AMAP pour des paniers qui viennent justement de plein de fermes autour dans un autre coin. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Et je pense qu'une grande partie, pour revenir sur M et de ce qu'on recherche dans les produits ou la logique, c'est voilà, ça passe beaucoup par l'alimentation. Et une bonne alimentation, c'est voilà, l'origine des produits, manger bien, manger bio. Puis après, il y a les types de produits. Mmh. Ça, c'est un peu plus nouveau.
Ouais. Et justement, pour valider un peu tout ça, vous appuyez chez M sur une personne qui s'occupe des formulations. Voilà, tu peux nous en parler un peu? C'est Valérie,
Oui,
c'est ça?
exactement. Valérie Espinasse. Et tu le mentionnes au bon moment parce que justement, autant ça, voilà, c'était mon expérience ou mon histoire et sur celle de Mathilde, ça a commencé il y a maintenant peut-être 6-7 ans. Enfin, elle avait pas mal de problèmes de peau et notamment avec toutes les grossesses qu'elle a eues et c'était très très cyclique. Elle a une peau très claire, fragile et elle a un jour rencontré Valérie Espinasse et c'est là où elle a eu comme un déclic que tous les traitements et tous les soins qu'elle mettait à l'extérieur, et notamment du fait de les changer tout le temps parce qu'elle découvrait une nouvelle marque ou sa dermato lui disait bah, on va essayer ça, en fait ça faisait qu'empirer la situation et qu'en fait il fallait traiter de l'intérieur. Et ça a été pour elle un déclic. Donc vraiment aujourd'hui, l'origine des produits de la marque et les formulations spécifiques qu'on a faites, elles sont très particulières parce que justement, c'est pas juste surfer sur la tendance du wellness et faire un truc, voilà, bien-être. C'est en fait le fruit de plusieurs années et d'histoires personnelles sur des problèmes de peau intérieure, extérieure, etc. et qu'en fait rencontre un peu toutes les femmes. Et Valérie Espinasse a été pour Mathilde et pour M un élément moteur et décisif. Et elle nous a donc, bien sûr, c'était naturel, aidé sur chaque formulation. C'est vraiment l'experte externe. On va en fait coupler, c'est là où c'est très intéressant, c'est un triptyque entre Mathilde, sa vision de la beauté, ses problématiques personnelles, etc. Valérie Espinasse sur l'expertise nutri-cosmétique, elle est pharmacologue, pharmacienne, etc. Sur la formulation et puis les laboratoires avec lesquels on travaille où là vraiment c'est des biologistes, scientifiques et puis voilà sur la production même des produits.
Donc là aujourd'hui, on l'a déjà mentionné, mais c'est vrai qu'il y a une trajectoire sur les 6 premiers mois qui est extrêmement ascendante, extrêmement forte. Vous avez démarré M tous les deux avec très peu, enfin très peu. Vous avez démarré avec vos fonds propres. Je crois qu'il y a très peu de
Oui.
business angels qui vous accompagnent. Il y en a d'ailleurs.
Il y en a, on a en effet sur des fonds propres et une petite levée confidentielle, enfin voilà, parce que c'était un peu de love money, si on veut, de personnes proches et ou d'entrepreneurs proches ou inspirants pour nous. Mais juste de quoi donner le premier déclic, c'est vraiment des histoires pour lancer les premières productions, etc. On a vite travaillé à avoir une rentabilité qui nous permettait de vite investir dans les nouvelles productions quand on vendait les produits. Et voilà, on avait la chance et on l'a encore d'avoir quasiment zéro coût de structure parce qu'on est encore que tous les deux, on n'a pas de bureau. Donc on a travaillé à un maximum d'efficacité entre nous. Ça, c'était vraiment, je pense, la force de notre association et de notre complémentarité et qui nous a permis de se lancer avec peu de moyens, mais suffisamment pour faire bien les choses et tout de suite, en effet, de façon ambitieuse, puisque beaucoup de gens nous ont dit, mais comment vous envoyez les colis, etc. Et c'est vrai que c'est même pas une question qu'on s'est posée ou envisagée de commencer en faisant les colis nous-mêmes pour économiser ceci, cela. On s'est tout de suite structuré avec une plateforme logistique, avec le site internet, les échanges informatisés qui font que toutes les commandes sont envoyées chaque jour et préparées sur notre plateforme logistique qui est pas loin de notre labo et tout ça qui est dans le sud-est. Et donc,
Mais donc face à cette hypercroissance là au démarrage, j'imagine que vous devez être sollicité de toutes parts là par les investisseurs pour vous accompagner et pour vous pour aller plus vite. Pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est pas le modèle.
exactement. Alors oui, solliciter, c'est sûr, on l'a vite été, même dès la première semaine. Quand on a fait le pop-up store, parce que je pense on avait fait un teasing, il y a eu un effet de buzz, ça c'est sûr, on est parti de la communauté de Mathilde qui est assez importante. On a eu, voilà, je pense, un peu l'innovation sur la marque, l'image de marque, etc. Ça a vite suscité de l'attention, notamment d'investisseurs, dont les fonds d'investissement. Et comme tu le notes, aujourd'hui, ce n'est pas notre logique ou notre stratégie. Ça l'a été sur Jolibox et Birchbox. Après, c'est des ambitions et des perspectives très différentes. Aujourd'hui, voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On est issu de milieux créatifs ou littéraires, mais on sait bien comment sont les mécanismes dans ce sens-là et dans l'entrepreneuriat quand on va lever des fonds. c'est un sujet important et sur lequel on peut vite beaucoup parler. Ce que je dirais là-dessus, pourquoi c'est pas notre stratégie, c'est ça, c'est que lever des fonds, ça donne tout de suite une direction. Parce que en gros, je parle des VC, hein, donc des fonds de capital risque, ils mettent pas de l'argent en se disant on met un petit billet puis on verra dans 15 ans si ça rapporte quelque chose, ou enfin voilà. Business angel, c'est plus on met un petit billet pour soutenir le projet, on vous demande entre guillemets rien et voilà, on vous fait confiance, on est là si vous avez besoin de conseils, voilà. C'est plutôt cette logique-là. VC, c'est pas qu'ils donnent pas de conseils et que c'est pas des gens bien ou qu'on est mal entouré, mais ça donne une perspective tout de suite de croissance très forte, très grosse rentabilité, et il faut qu'en gros dans 5 ans ils aient fait un multiple de 5 sur l'investissement. Donc ça donne pas beaucoup d'horizons possibles. En gros, dans 5 ans il faut avoir revendu ou il faut avoir relevé encore plus pour qu'ils puissent faire un exit. Et nous, ce n'est pas forcément les perspectives qu'on a envie de se donner avec Mathilde. Pour deux raisons. On a envie de garder le plus longtemps possible la maîtrise complète de la direction stratégique et financière. Est-ce qu'on veut ou pas se développer à l'international, investir ici, investir là. Et puis aussi, on veut, je pense, c'est important pour travailler sur la qualité de la marque, c'est travailler sur sa pérennité et se dire qu'on veut faire une marque fast beauty qui dans 2 ans sera revendue puis on passera à autre chose. Je pense que ça fait faire les choses très différemment et qu'aujourd'hui, s'ils vont être concentrés sur deux choses qui nous paraissent essentielles, c'est la qualité des produits et la qualité de la marque, on doit le faire avec une vision pérenne des choses. Et si on a un exemple que je peux citer et qu'on aime beaucoup avec Mathilde, comme marque par exemple, c'est Caudalie, ils ont monté leur marque il y a 25 ans, ils sont toujours indépendants et je pense que c'est une vision très différente. Ça ne veut pas forcément dire qu'on changera un moment de stratégie ou de vision, mais on veut se laisser le plus longtemps possible le choix de la direction à prendre. Et je pense que ce serait précipité et un mauvais choix que de là avoir déjà levé je ne sais pas combien, alors qu'on n'en a même pas forcément besoin. Ce serait beaucoup trop précoce. Donc on reste attentif et ouvert à toute proposition axe, mais on est aujourd'hui concentré sur les produits, sur la marque. Et après, selon ce qui va se passer, les opportunités, etc., on verra.
Vous évaluerez. Mais est-ce que toi, personnellement, tu as souffert de ça dans l'aventure Jolie Box, Beard Box, c'est parce que vous avez levé rapidement beaucoup de fonds,
ça a été un peu chaotique en effet, dans tous les sens du terme, des très hauts comme des très bas. Je dirais pas souffert ou qu'aujourd'hui j'en ai une amertume ou un truc particulier, je pense pas que dans mes propos je sois anti-VC ou quoi que ce soit, et on l'est pas du tout, et on en a déjà rencontré justement, il y en a certains avec qui voilà, on est en contact, on se voit, et c'est juste différent, en tout cas voilà, c'est une logique particulière qu'on n'a pas envie d'activer tout de suite. Dans le passé, c'est l'inverse, on l'a activé tout de suite. C'est au bout de un mois, on avait levé, ou un mois ou deux, on a levé 1 million avec un plan de croissance comme ça. Et là, c'était justement la perspective, on voulait se faire racheter par Birchbox. Mais à l'époque, je pense que c'était ambitieux et c'était super. Nous, on avait 22 ans, on sortait d'études. On voit Birchbox aux US, ça cartonne. C'était pour nous un modèle. On était fascinés par leur croissance et leur développement. On se dit, on va tout faire pour que quand elles vont vouloir aller en Europe, on soit les plus beaux et on soit, comme on disait, la belle mariée. Et on a réussi à tout faire dans ce sens-là. Mais ça s'est fait très vite, au bout d'un an.
Tu te souviens d'ailleurs du moment où Le rachat s'est vraiment concrétisé ?
Oui, clairement. Mais ça a été des faits marquants. Donc, tous ces moments-là un peu clés, quand on a levé des fonds, quand on s'est fait racheter, etc., c'était les moments très forts de notre aventure. Et justement, on avait passé une nuit chez les avocats jusqu'à 5 heures du matin. Puis en plus, comme ils avaient eu leurs avocats en Californie, il y avait vraiment deux décalages horaires. À 5 heures du mat, en fait, on apprend qu'en Californie, ils ont encore des trucs à relire, tout est annulé, on signera le lendemain. Là, c'était vraiment, je pense, le summum de l'adrénaline et de l'excitation entrepreneuriale. Et on a fini par closer, par tout signer, mais que la semaine suivante, ça, c'était en effet, c'était un moment fort. Et aujourd'hui, j'ai ni regret, ni, comme tu dis, souffert de tout ça, mais après c'est aussi le jeu et c'est les risques de l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Ça a été très haut et aux US, ils ont eu une croissance incroyable et très forte. Ils ont ensuite connu des difficultés. Heureusement et malheureusement, c'était eux qui portaient un peu tout le monde. Ça nous a beaucoup drivé au début. On se posait beaucoup de questions. On savait pas où aller, ce qu'on allait devenir. Donc, je pense que là, en tout point, tout ce qu'on avait fait ou activé, c'était sans doute les meilleurs des choix possibles. Et quand ça s'est, ils nous ont bien aidé à nous mettre sur les rails. Après, ça a été plus difficile pour eux aux US. C'est un marché très différent, très particulier, très grand. Et nous, heureusement, on a connu une très bonne et forte croissance. À peu près, ça a coïncidé. Donc après, eux, ils nous ont beaucoup soutenus au début. Nous aussi, on les a soutenus sur les dernières années. Donc, c'était une question d'équilibre et tout. Après, ces questions, pour en revenir sur la question des financements ou des VC, le point sur lequel, pas j'en ai souffert, mais qu'on voulait en tout cas pas revivre avec Mathilde, c'est que sur toutes ces étapes-là, et notamment sur les dernières années, et même dès lors qu'on a été avec Birchbox, mais même dès lors qu'on avait levé, on n'était plus vraiment chez nous, même si le matin, on avait personne au-dessus de nous, et on avait l'impression quand même d'être, entre guillemets, à la maison. On se sentait, dans un cadre qui était super confortable, mais d'un point de vue entrepreneurial, financier, justement business, on n'était plus chez nous. Et mais ce qui est normal, hein, c'est on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Hein, c'est avec Mathilde, je pense que sur M, on a envie d'être chez nous en tout sens. Et ça veut pas dire que c'est dénué d'ambition. Quelque chose de très assez ambigu sur les réactions qu'on a eues au début. Quand on dit que non, on veut pas lever ou en tout cas pas tout de suite, les gens, un peu la réaction première, je parle de plutôt entrepreneur. Leur réaction, c'est « Ah, mais vous n'avez pas d'ambition, mais vous ne voulez pas devenir gros. » Comme si le lever, c'était le levier et la clé du succès, de la croissance. Et je pense que c'est extrêmement... Il y a une confusion très forte qui se clarifie un peu ces derniers temps, mais il y a eu un pic, il y a eu une bulle de confusion 2014-15 quand avec l'éclosion de toutes les startups et tout le monde lève à gogo et des montants délirants. C'est là où là, par contre, moi, je mettrais un vrai warning pour nous. Et ce qui a fait que ça a été dur chez Birchbox, c'est qu'on a un peu cette logique-là. On a levé sur des montants et des valos très importantes. Et le danger de ça, c'est que c'est super tant que tu as une croissance avec une courbe à 45 degrés, et le jour où elle commence à se tasser un peu, c'est la catastrophe. Et là, il faut changer son fusil d'épaule, et on passe d'une stratégie à croissance à tout prix à une stratégie rentabilité à tout prix. Et là, quand il faut tout chambouler, ça peut être un peu compliqué.
Alors justement, tu mentionnais un peu la question de l'adrénaline, que là, on comprend bien que ça a des moments très hauts, très forts, et parfois très bas et très durs. Tout le monde me dit que tu pratiques des sports extrêmes ou quasi extrêmes. Oui. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que tu avais fait pas mal de roller et que tu étais fan, ou en tout cas tu regardais Ty Chris, qui était l'invité précédent de Takeoff, un des invités précédents. Ma question, c'est quel type de sport tu pratiques, à quelle fréquence, et pourquoi tu le fais?
Alors, c'est intéressant, c'est une question très à laquelle c'est sympa de répondre. Mais c'est intéressant parce que je pense que, en complément de mon pan créatif, c'est l'autre particularité en effet de ma personnalité, où je dirais le mec lambda, école de commerce, comme tu disais, et il fait du foot ou du tennis. Alors, j'ai fait du tennis et en compète pendant plusieurs années, j'aime beaucoup ça. Mais ce qui a vraiment été, c'est vrai, au fond de mes tripes, pour en revenir aux intestins, peut-être ça vient de là aussi, mais depuis que je suis tout petit, c'est les sports de glisse. Et je me souviens très bien, ça a commencé quand j'avais 5 ou 6 ans à Biarritz, où j'avais encore mon arrière-grand-père qui habitait là-bas, et voir les gens surfer sur les vagues, j'étais fasciné. Et donc j'ai eu mon premier bodyboard à 7 ans dans les petites mousses de Biarritz, et ça n'a jamais cessé, ça s'est développé à tous les autres sports de glisse. Je me souviens aussi, mon cousin, ça devait être en 93 ou 14, qui était revenu des États-Unis, m'avait rapporté un skate super bien, donc avec la forme un peu années 80 là, des skateboards. Et donc je m'y suis mis, Et ça m'a pas lâché jusqu'à mes 20 ans, un peu au désespoir de mes parents à la fin, mais j'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors aussi avec des blessures et tout, c'était pas tout le temps, c'était pas forcément un très bon sport en pleine croissance, mais en termes de passion et d'adrénaline, c'était top. Et après, le surf, le snowboard, j'ai fait de la planche à voile. L'année dernière, je me suis mis au kitesurf et c'est aujourd'hui ma passion sur le
sport. C'est le sport des entrepreneurs, le kitesurf.
C'est un peu le sport des entrepreneurs. Aujourd'hui, ceux que j'ai gardés, parce que j'ai toujours cette passion pour, en effet, c'est les sports de glisse, c'est l'adrénaline, c'est la sensation qu'on a quand on va descendre une piste à fond, prendre une vague, même si on a galéré à ramer pendant 3 heures. Il y a un truc très particulier qu'on n'a pas dans les autres sports. Et aujourd'hui, ce que j'ai gardé, c'est le snowboard, parce que c'est vraiment une passion au niveau de la montagne, de tout ce qu'on vit. Je trouve ça incroyable. Le kitesurf, où je m'y suis mis il y a 1 an et demi ou 2, et avec le passif de tous les autres sports, j'ai eu vite des facilités. Et vraiment, j'aime beaucoup ça. C'est un peu, voilà, le sport aussi tendance, etc. Je m'y suis mis assez tardivement, mais aujourd'hui, c'est aussi devenu une vraie passion. J'y retourne d'ailleurs dans 15 jours au Maroc, là où vraiment c'est un super spot. Mmh. Et où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont.
On m'a dit, ouais.
Voilà.
Et tu t'es fait des frayeurs ou pas?
Des frayeurs, oui, un peu, pas, je dirais pas de grosses frayeurs, mais oui, j'ai quelques événements, des blessures en skate ou des trucs, des doubles fractures, le coude, le bras. Ça a été compliqué quand j'étais au lycée. Je me souviens de seconde, première, terminale, j'avais tout le temps la moitié de l'année, j'étais plâtré. Et notamment, pour la petite anecdote, mon bac, je l'ai passé le bras dans le plâtre qui remontait jusqu'au coude parce que j'avais une double fracture.
Le bras avec lequel tu écrivais?
Oui, non, droit.
Je
suis gaucher, par contre, je me souviens, pour la physique et tout, il fallait faire avec la règle et tout, c'était compliqué. Et en plus de ça, je devais passer le permis. Je l'avais déjà annulé l'année d'avant en conduite accompagnée parce que j'étais plâtré. Mm-hmm. Là, je me dis, il faut que je le passe parce que je savais que j'allais partir à Paris pour mes études et tout. Je demande à l'hôpital qu'il me coupe le plâtre en deux pour trouver la mobilité du coude. Comme ça, j'ai pu passer le bac sans, j'aurais pu demander un delta de temps supplémentaire. Je l'ai pas fait. J'ai préféré demander à ce qu'on me coupe le plâtre, et c'était aussi pour pouvoir passer le permis et les vitesses. Mmh. J'ai fait une séance test comme ça, le moniteur il a fait bon ok, et j'ai passé le permis comme ça.
Que t'as eu?
Que j'ai eu.
Aujourd'hui, comment tu gères un peu, est-ce que tu arrives encore à intégrer ça réellement dans ta vie d'entrepreneur? Vous faites tout à deux, ce qui est quand même assez incroyable. Est-ce que tu arrives quand même à t'octroyer du temps, et est-ce que c'est important?
Oui, c'est important, ça c'est sûr, c'est même, je pense, fondamental. Tu vois, c'est une logique aussi très différente qu'on a appliquée avec Mathilde depuis le début, je pense qu'on cherchait mutuellement. C'est, je refais le parallèle avec le début de Jellybox. Mathilde, elle recherchait, elle avait aussi besoin, je pense, de temps pour elle et pour sa famille. On a tout de suite travaillé dans cette logique-là. Avec un respect mutuel du temps privé versus du temps professionnel ou ensemble. Ça n'empêche pas qu'on puisse échanger tout le temps, hein, le soir comme les week-ends, mais il y a une vraie rupture, il y a un vrai rythme avec du temps pour nous et du temps pour le projet. Et depuis le début qu'on a commencé à travailler sur le projet, l'été dernier, cet automne, et là même avec les 6 derniers mois et encore aujourd'hui, globalement, le week-end, c'est le week-end. Le soir, c'est le soir. Et en plus, Mathilde, travaillant à Reims, on a aujourd'hui très bien trouvé ce rythme par rapport à ta première question et ma routine matinale qui, au début, me faisait un peu peur de devoir me lever, mais sans devoir aller au bureau et tout. Aujourd'hui, j'ai ce rythme où, justement, je sais qu'une ou deux journées dans la semaine, je vais bosser de chez moi. C'est parfait. Je suis au calme. Je vais être super efficace sur mes tâches. Je vais peut-être aller au sport le matin ou sinon, j'irai le soir. Et puis après, quand on se retrouve avec Mathilde, on bosse ensemble et tout. Mais en général, elle prend le train de 18h30 pour être avec ses enfants pas trop tard pour le dîner. Moi, ça me laisse du temps pour terminer 2-3 petites tâches ou aller faire du sport ou autre chose, voir des amis, prendre du temps. Et je pense que c'est très important. Mais plus que ça, c'est sans doute une partie, en tout cas le fruit de notre réussite, c'est qu'on arrive à avoir un équilibre qui fait que quand on est sur le projet, on est à fond. parce que on a ce bon équilibre, on est bien reposé. Je pense que c'est un repos psychologique. Il y a physique, c'est, voilà, mais il y a aussi psychologique. Et de couper, c'est très important, et je pense que ça fait qu'on est d'autant plus efficace quand on est sur le projet.
Ça aussi, c'est une tendance un petit peu qui commence à poindre. Je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui m'expliquent un peu ça. Les temps de repos sont importants.
Oui.
Est-ce que tu peux dire, toi, aujourd'hui, que tu es plus efficace dans ce rythme-là que tu l'étais il y a 10 ans, plus jeune, mais à l'époque de Beardbox?
Oui, alors je le confirme, c'est vraiment oui, un grand oui. Et même à l'époque, et même si j'avais 8 ans de moins, j'étais plus fatigué. J'ai toujours été plus fatigué, justement. Aujourd'hui, je pense, c'est ce que je disais récemment à Mathilde, il y a peut-être aussi du placebo, hein, des formules, et de fait de... Mais oui, c'est psychologique. C'est, on change un peu sur l'alimentation, un peu sur le sommeil, un peu sur le rythme. C'est un tout. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis en meilleure forme globale que je l'étais l'année dernière et que je l'étais il y a 8 ans. Et en effet, on prône de plus en plus, et tant mieux, les temps de pause, les temps de repos. Ça arrive, mais encore très mollement en France. Le fait, par exemple, de dire que faire une sieste, ça peut être bien. Je sais, quand on avait fait les nouveaux bureaux l'année dernière chez Birchbox, j'allais dire, oh, on pourrait faire une petite salle de pause. Bon, c'est encore compliqué quand même pour plein de raisons et tout, mais aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est vraiment la norme. Moi, je pense que c'est super important. Ça m'arrive souvent. Moi, c'est vraiment la micro-sieste, même la micro-micro-sieste. C'est parfois juste m'allonger, un peu de respiration. Méditation, ça vient aussi très... voilà, aux États-Unis, tous les entrepreneurs font de la méditation. En France, ça arrive beaucoup. C'est super, sophrologie, méditation. Mais le repos, tout simplement, après le repas, s'allonger, ça peut être entre 5 et 15 minutes. Quelques respirations profondes. Essayer juste de se relâcher. Et en général, moi, c'est le moment où, justement, je vais un peu perdre pied vers l'endormissement. Et ben là, pof, je me réveille. Et ça a suffi. Juste de lâcher prise pour me redynamiser. Et après, je vais passer une bonne après-midi.
Bonne après-midi studieuse.
Voilà.
Est-ce que tu as le temps, malgré tout, comme tu as un parcours très créatif, on me dit que tu as beaucoup d'idées et qu'il faut les gérer, parfois c'est un peu compliqué. Est-ce que tu arrives, comment tu réponds à ce besoin de voilà, toute cette appétence vis-à-vis des idées? Je crois que tu es investisseur, ou en tout cas tu participes à l'aventure de Tiptoe, qui est
Oui, c'est vrai.
qui est une marque de design de meubles.
Oui.
Voilà, comment tu arrives à satisfaire ce besoin de créativité?
Je pense qu'il y a créativité. C'est pas non plus une frénésie entrepreneuriale où j'ai une idée chaque jour de start-up. Sinon, je sais pas, j'en aurais fait un business et je les revendrais. Non, mais je pense que c'est... oui, il y a des... Tiptoe, en effet, c'est particulier parce que c'était en 2015. En effet, j'ai cette idée... Et je trouve ça génial parce que je suis créatif designer dans le mobilier et tout, c'était super. Je voyais plein de perspectives et de possibilités qui changeaient, qui donnaient un axe, en tout cas une approche différente sur le meuble. Mais je pouvais pas y aller, j'étais full time chez Birchbox et tout. Donc en effet, on est obligé de se canaliser un peu. Moi, en fait, je sais que je peux pas avoir la tête partout et que être sur plusieurs projets à la fois, c'est très compliqué. Donc Tiptoe, j'ai joué un peu sur deux tableaux parce que vraiment, je sentais qu'il y avait un truc et qui me passionnait, etc. J'avoue que c'est ce qui a commencé à me donner le goût de, ou en tout cas l'arrière-idée à l'époque, de me dire je vais forcément me relancer et relancer quelque chose. C'était trop tôt, donc je l'ai aidé en effet à initier le truc, puis ça m'a donné, c'était un peu ma récréation en effet créative à côté de Birchbox. Mais après... Mathieu, qui est un de mes meilleurs amis, il s'est très bien entouré, structuré, et voilà. Et aujourd'hui, fait sa route sans moi, sans nous, même si on est toujours derrière lui et qu'on l'aide ou qu'on le conseille. Mais c'est pas non plus, on n'a pas une idée de boîte tous les jours. Après, c'est plus en effet des idées au quotidien par rapport à un projet. Ou quand on discute avec Mathilde, ou à l'époque avec les autres, ou chez Birchbox, j'ai cette tendance à rebondir avec d'une idée à une autre, à une autre, à une autre. Parfois me perdre. J'ai un peu dû justement travailler à canaliser mes propos et mes pensées. Mais je pense qu'aussi c'est une forme de ma créativité, ou de la créativité. C'est voilà, de réussir très facilement à passer d'une idée à une autre. Et je pense, pour sortir de l'aspect purement créatif design ou artistique. La créativité, c'est dans tous les domaines et tous les métiers. Et ça peut... Moi, typiquement, je pense que déjà à l'époque, quand je m'occupais de la logistique ou autre chez Jolibox, et aujourd'hui, avec tout ce dont on s'occupe avec Mathilde, ça aide beaucoup à résoudre des problèmes. Ou en tout cas, quand un problème est posé, c'est ce côté, comme on dit, hein, think out of the box. Mmh. C'est tout de suite s'extraire du contexte ou du cas actuel pour trouver une solution contournée. Et ça, c'est même quelque chose dans lequel je prends plaisir. Et c'est souvent pas du tout sur des problématiques artistiques. Ça va plutôt être sur des problématiques de production, de logistique ou des choses comme ça. Et... j'avoue que je m'épanouis aussi beaucoup là-dedans. Je pense que c'est une forme de créativité quand il y a un challenge, on veut lancer ça. Je pense que c'est ça aussi qui donne un boost et qui fait qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait en 6 mois. C'est ce challenge qui donne cette motivation, cette adrénaline de voilà, on veut lancer ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le temps? Parce qu'il faut faire les choses en bonne et due forme, mais en même temps, on veut pas prendre 3 ans d'études de marché et conso avant de lancer le premier produit. Donc c'est derrière trouver, activer tous les leviers qui font qu'on va pouvoir lever des barrières qui semblaient être, qu'on n'avait peut-être même pas pensé à lever et qui facilitent beaucoup les choses.
Et si on rebondit sur le design, parce que Tipto, je crois qu'il y a, un des partenaires qui est l'un des designers de la Fantôme, de l'enceinte Fantôme.
Oui, qui est arrivé dans l'équipe en tout cas il y a maintenant je crois 2 ans. Et qui était designer chez De Vialet. Ouais.
Et donc, ma question, c'est pour toi, là, on arrive à la fin de ce podcast, quel est le geste ultime, un peu, celui qui te fait rêver en termes de design et qui peut t'inspirer, même au-delà de ce que tu fais chez M aujourd'hui?
C'est une bonne question. Peut-être ça restera une question ouverte. le geste ultime, j'aime beaucoup l'architecture d'intérieur et tu vois, j'ai plaisir à te recevoir chez moi et dans l'appartement que j'ai pris plaisir à aménager, décorer. Je sais pas si ce que tu entends par le geste ultime ou le projet ultime, mais en effet, des projets ou des choses vraiment avec dans l'architecture. Intérieur, extérieur, mais déjà chez M, voilà, on ouvre une première boutique à Paris au mois de juin, c'est super de bosser dessus. Donc je sais pas si j'ai c'est une question ouverte.
Très bien,
ouais. Mais je pense que justement le fait d'avoir que j'y réponde pas précisément, c'est que je reste en recherche et en créativité ouverte à toujours de nouvelles choses et je pense que c'est important de pas être rassasié. Et donc, y a aujourd'hui beaucoup de choses qui m'animent ou me motivent et on va essayer de continuer comme ça.
Et on pourra te suivre notamment sur Instagram. Tu as un compte
Oui.
Pas encore aussi, pas autant de followers qu'avec Mathilde.
Mais ça monte doucement, mais sûrement. Mon compte Instagram, François Morier, où, un peu de surf, un peu de design, un peu de M. Voilà.
Très bien, on va suivre tout ça. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Vous venez d'écouter Takeoff. Je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, vos critiques. Votre aide est précieuse. Alors n'hésitez pas à nous en faire part et à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com